Les clés secrètes de l'univers. Dominique Desmichel et Michel Galliana Mingo.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes. Ceux qui ont déjà suivi les deux premiers épisodes savent que nous sommes à la recherche d'une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de notre monde, du Big Bang jusqu'à nos jours. Les mélomanes ont reconnu la musique du film 2001, l'Odyssée de l'espace, ce scénario de Arthur C. Clarke, un film de Stanley Kubrick de 1968 et une musique de Richard Strauss. Nous sommes ensemble pour 15 minutes. À la suite des deux précédents épisodes, nous allons retrouver notre conteur savant et simple, Michel Galliana Mingo, polytechnicien, éclaireur de l'histoire de nos origines. Aujourd'hui, épisode 3. Michel, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Dominique. Ravi de vous retrouver.
Alors aujourd'hui, vous nous emmenez où ? La dernière fois, on avait parlé un petit peu de, ou beaucoup même de ce chanoine le maître, de l'idée de l'univers complètement immuable jusque-là, de ce chanoine qui, malgré sa condition d'ecclésiastique, manie bien les mathématiques, écrit Einstein, se fait en gros renvoyer dans ses bureaux, dans ses pelotes, et puis qui un jour observe les nébuleuses, celles que l'on reconnaîtra après comme étant des galaxies lointaines, et voilà qu'il remarque que, comme les flamants roses dont vous nous avez parlé la dernière fois, sont tous en train de s'éloigner de son champ de vision. Alors, il en déduit quoi ?
Eh bien, ce qu'il déduit de tout cela, il le tient des équations d'Einstein, hein, rappelez-vous, c'est un mathématicien de nouveau, et il utilise la relativité générale pour comprendre l'univers. Voilà ce que fait notre chanoine. Eh bien, par ces équations, il démontre que l'univers est forcément en expansion. Et cela, c'est une idée que Einstein n'accepte pas. Dans un congrès de Solvay, le chanoine Georges Lemaître était invité parce qu'il commençait à être connu comme un grand savant. Et il discute avec Einstein. Il lui explique que l'univers, d'après les équations mêmes d'Einstein, doit être en expansion. Einstein refuse totalement cette idée et Einstein lui dit en public, hein, devant d'autres savants, « Le maître, vos mathématiques sont admirables, mais votre sens physique est abominable. » Et cela, je trouve que, d'abord c'est très injurieux, mais en plus c'est totalement faux. Car qui a eu plus d'intuition physique que le maître dans l'histoire de la cosmologie ? Personne, et surtout pas Einstein. C'est donc une critique mais totalement infondée. Je suis personnellement passionné par cet homme, Georges Lemaître, et je peux vous dire que pratiquement tout ce qu'il a conçu et prévu dans sa carrière s'est avéré vrai. Alors, remontons maintenant donc aux origines, c'était l'expansion de l'univers. Et nous sommes dans les années 20, Einstein l'accuse de faire des élucubrations à partir de ses équations, et néanmoins, l'expansion de l'univers va être observée. Elle va être observée par un autre personnage tout à fait extraordinaire qui s'appelle Edwin Hubble. Edwin Hubble est un jeune astronome brillant, un grand sportif, heureusement parce qu'il montait à 1700 mètres d'altitude au Mont Wilson où il passait des nuits entières devant le plus grand télescope de l'époque et parfois ça se passait en hiver à par moins 20, donc il fallait être d'une bonne constitution physique. Et pourquoi avait-il, lui, jeune astronome, la possibilité d'accéder à ce qui était le plus grand télescope à l'époque, le télescope du Mont Wilson? C'est qu'il avait inventé une méthode pour mesurer la distance des étoiles. À l'époque, on ne savait mesurer que la distance vraiment des étoiles les plus proches de la Terre, mais d'une manière générale, tout ce qui était le cosmos, on était incapable de mesurer les distances. C'est d'ailleurs pour ça qu'on imaginait une voûte, toutes les étoiles collées sur une voûte. Comme on n'avait aucune idée des distances, eh bien, on imaginait que c'était une sphère et que les étoiles étaient collées sur cette sphère. Alors lui obtient des créneaux importants d'une nuit entière, plusieurs nuits entières, au Mont Wilson, et il examine les galaxies. Alors, je vous disais la dernière fois qu'à l'époque, on ne savait pas ce qu'était une galaxie. On connaissait des nébuleuses, qui étaient des objets un petit peu étalés, blanchâtres, et on ne savait pas ce que c'était. Eh bien, Edwin Hubble, très rapidement, grâce à sa méthode de mesure des distances, constate que ces fameuses nébuleuses se trouvent beaucoup plus loin que les étoiles. 10 fois, 20 fois, 100 fois plus loin que les étoiles, ce sont donc d'autres galaxies. Et là, Hubble, par cette première découverte, clôt ce qu'on appelait le grand débat entre ceux qui disaient « les nébuleuses, ce sont des espèces de nuages qui sont dans notre galaxie » et ceux qui disaient « non, ce sont d'autres objets beaucoup plus loin qui sont d'autres galaxies ».
Je vous coupe, Michel, je vous coupe là pour qu'on comprenne bien. Oui, ça veut dire, quand on regarde, on va voir après que tout ça, c'est un petit peu plus compliqué et que c'est pas aussi simple que ça. Mais on croyait, au fond, qu'il y avait les étoiles qui étaient à une certaine distance et qu'entre les étoiles, il y avait ces espèces de machins qui ne ressemblent pas à grand-chose, un peu fumeuses, une sorte de nuage qu'on appelait les nébuleuses. Et Hubble, il dit non, non, ça n'est pas ça du tout. C'est quelque chose qui est un ensemble, au fond, de galaxies, ou une galaxie, ou plusieurs galaxies, et c'est situé beaucoup, 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 beaucoup plus loin, c'est ça?
Ce sont des ensembles d'étoiles, ce ne sont pas des objets, ce sont des ensembles d'étoiles. Dans une galaxie, il y a 100, 200, 300 milliards d'étoiles.
C'est ça, oui. D'accord. Donc il pose ça comme... comme quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire on change d'échelle, c'est ça?
On change d'échelle, on voit que l'univers est beaucoup plus grand finalement que ce qu'on le pensait, et finalement ces objets commencent à se mettre en perspective, ils ne sont plus collés sur une voûte, sur une sphère, on commence à voir dans l'espace, on commence à voir des volumes et non plus une surface. Bon, ça c'est important, mais alors beaucoup plus important, il démontre par l'observation ce que Georges Lemaître avait trouvé par le calcul. Georges Lemaître avait trouvé que l'univers devait être en expansion. Et Edwin Hubble le constate et le mesure.
Ça a dû être quand même une espèce d'énorme choc quand même pour tous ces astrophysiciens.
Absolument, parce que le choc qui est derrière cela est culturel, c'est le fait que l'univers vit alors qu'on le considérait comme un cadre totalement immuable. L'univers est vivant. Et c'est là que nous arrivons au Big Bang, car fort de cette découverte, fort de ce qu'il avait prévu, Georges Lemaître, fort de la confirmation expérimentale qu'apporte Edwin Hubble, Georges Lemaître se pose la question, une bonne question pour un ecclésiastique, que se passe-t-il si je remonte le temps? Et si je remonte le temps dans un univers qui est en expansion, ça veut dire qu'en regardant le film à l'envers, l'univers se rétrécit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, il devient de plus en plus petit. Et comme je ne vois rien qui puisse arrêter cela, j'en déduis, moi, Georges Lemaître, que l'univers a une origine et que cette origine est ponctuelle et chaude, on en parlera. Mais surtout, la grande, grande découverte, c'est qu'il y a une origine. Non seulement l'univers est vivant, mais il a eu une naissance.
D'accord, oui, en effet, on peut bien penser ça, c'est-à-dire il y avait cette sorte de grande masse statique, vous avez utilisé le mot de plan tout à l'heure, hein, comme cette voûte céleste où il y aurait voilà, on aurait dessiné les petites étoiles et éventuellement quelques nébuleuses par-ci par-là. Et puis voilà que l'univers n'est pas statique, il n'est pas immuable, et qu'en regardant de plus en plus loin, au fond, on remonte le temps. Et que, comme vous dites, si on met la machine à l'envers, alors on revient à un univers qui va se rétrécir de plus en plus jusqu'à devenir un point. C'est ça? Je ne dis pas de bêtises?
C'est tout à fait ça, et c'est une révolution considérable dans la pensée, parce que dire que l'univers a une origine, voyez, c'est d'une importance considérable. C'est un peu comme à l'époque de Darwin, lorsque peu avant sa publication de l'Origine des espèces, on a découvert à Néandertal, près de Cologne en Allemagne, des restes humains qui était un petit peu entre l'homme et le singe. C'est une découverte fondamentale parce qu'on n'imaginait pas cela à l'époque. C'est à peu près de la même ampleur. L'univers a une origine, l'univers a connu une naissance ou une création. Et cela, bon, c'est une révolution dans la pensée, on le verra ensemble la prochaine fois, mais c'est une révolution qui a mis 35 ans à se faire. L'idée du Big Bang a mis 35 ans à s'imposer.
Voilà, on arrive à la fin de nos 15 minutes. Je vous remercie pour cette petite incise-là et donc cette sorte de parallèle que vous faites souvent dans votre ouvrage entre cette échelle cosmologique d'une part et puis l'histoire du vivant sur notre Terre, hein. Et j'aime bien ce parallèle avec, voilà, on a trouvé que l'univers avait probablement une origine et on a aussi trouvé qu'on avait des ancêtres. Dans cette vallée de Néander qui, en Allemagne, a donné le nom à cet homme de Néandertal. Voilà, Michel, je vous laisse parce que c'est l'heure. Merci pour ce troisième voyage. Je rappelle le titre de votre livre, Les clés secrètes de l'univers, publié chez EDP Sciences. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, Michel, et nous allons aborder quoi? Vous avez 30 secondes?
Bien, nous allons entrer dans le Big Bang et voir un peu ce que c'est, de quoi il s'agit.
Merci Michel, merci à tous les éditeurs. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de ce feuilleton et le quatrième épisode. Au revoir.